Alors que nous votions le week-end dernier pour les élections européennes, nous poursuivons nos analyses autour de ces résultats. Nous allons nous intéresser en particulier à la gauche. Qu'en reste-t-il en France, en Europe? Comment peut-elle se reconstruire? Autour de quelles idées, de quelles valeurs, de quelles idéologies? Comment articuler aussi la question sociale qui a toujours été au cœur des gauches avec la question environnementale qui s'impose de plus en plus et en particulier chez les nouvelles générations? Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, un spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle française, et vous signez un ouvrage collectif, vous avez dirigé un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Perrin, Les figures de proue de la gauche depuis 1789. Ça va être bien utile pour justement comprendre les évolutions actuelles. Il y a deux manières, Michel Vinocq, de voir le scrutin de dimanche dernier. La première, c'est de dire qu'au fond, les partis de gauche sont relayés assez loin derrière le parti d'extrême droite et le parti centriste de La République En Marche, et donc qu'ils ne comptent plus. Et puis la deuxième analyse consiste à dire que finalement, en réalité, quand on additionne un peu toutes les formations classées à gauche, on a une force politique qui est quand même relativement forte, puisque quand on les totalise, on est à plus de 30% des suffrages exprimés. Quelle analyse vous faites, Michel Vinocq, de cette dernière élection, et qu'est-ce qu'elle vous semble révéler de l'état de notre gauche française ?
Oui, vous avez raison. Il y a, depuis dimanche, un leitmotiv qui consiste à dire la France coupée en deux, l'extrême droite contre Macron. On oublie effectivement les voix de la gauche. Si on additionne l'ensemble de ces suffrages, on arrive à quelque chose comme 32%, c'est-à-dire plus que l'une ou l'autre de ces deux listes vainqueurs. Alors le problème, c'est qu'évidemment, la gauche n'existe pas dans la mesure où elle est morcelé. Et précisément, dans le livre que nous avons fait, Les figures de proue de la gauche depuis 1789, l'une des évidences, c'est la difficulté de la gauche
à s'unir. On va y revenir
assez
largement.
Et cela dure depuis, je dirais, le début, depuis la Révolution. Alors, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une bipartition nouvelle? Ou est-ce qu'il s'agit d'une tripartition éventuelle? Comment la gauche pourrait se ressaisir? C'est la question que vous posiez.
Et on a pas mal de temps pour l'évoquer, justement. Mais si on reste sur le paysage, j'allais dire, européen, la gauche française n'est pas du tout la seule en Europe à rencontrer quelques difficultés. Quand on regarde du côté de l'Allemagne, on est un SPD qui est à moins de 16% des voix. C'est le pire score depuis la première élection de 1979. En Italie, les sociodémocrates font un peu plus de 20%, mais on est quand même très très loin derrière la ligue de Matteo Salvini qui est à 34%. En Grèce, Tsipras est arrivé derrière les conservateurs. Il y a bien qu'en Espagne, où effectivement, le PSE arrive à tirer son épingle du jeu. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité dans l'élection européenne qui pourrait expliquer que la gauche, finalement, a particulièrement du mal à bien s'y présenter, à bien y figurer?
Je ne suis pas sûr que ce soit à cause de l'Europe ou du mode d'élection européen. C'est plutôt une vaste crise d'identité de la social-démocratie.
Je pensais pas forcément au mode de scrutin, mais je pensais plus peut-être au fait que l'Union européenne est peut-être avant tout un marché commun, et peut-être que dans cet environnement, la gauche a plus de mal et moins bien armée pour défendre son programme social.
Oui, vous avez raison. J'ai dit mode de scrutin, c'était pas exactement ce que je voulais dire. Je veux dire l'Europe, quoi. L'Union européenne. Est-ce que la gauche se trouve bien dans cette Union européenne? Je vous fais remarquer que jusqu'à présent, l'Union européenne a largement marché grâce aux socialistes, aux sociodémocrates, très largement. Les conservateurs avaient la majorité, mais les sociodémocrates passaient des compromis avec cette majorité conservatrice, et elles n'étaient pas apparemment mal à l'aise dans l'Union européenne. Mais je crois que, en profondeur, il y a une crise d'identité de la social-démocratie, du socialisme aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, alors si nous prenons le cas français, on voit bien que aujourd'hui il y a un impératif qui s'impose et que le succès des Verts démontre, c'est l'impératif écologique. Or la gauche est assez embarrassée. Bien entendu, elle se dit écologiste. D'ailleurs, toutes les formations, désormais, se disent écolo, etc. Mais en fait, il y a, si vous voulez, historiquement parlant, une sorte de contradiction entre la culture de gauche et l'impératif écologique. Je m'explique. La gauche a été, depuis ses origines, une gauche saint-simonienne, c'est-à-dire favorable au développement économique, au modernisme industriel. Et du reste, dans l'industrie, elle trouvait son armée, c'est-à-dire le prolétariat industriel. Et qu'elle était pour le développement, pour la croissance. Or, à la longue, nous nous apercevons qu'il y a bien une antinomie, une contradiction entre l'impératif de la transition écologique et la croissance à tout va. Le toujours plus de production, le toujours plus de consommation, ça ne va pas de pair avec cette nécessité de l'écologie, de l'impératif écologique. Voilà pourquoi il y aura pour la gauche, et ça c'est vrai pour toutes les gauches de l'Europe, une sorte de révolution copernicienne à effet pour désormais concilier un autre projet que celui de la croissance et de la redistribution par la croissance.
Mais alors, est-elle possible justement cette révolution copernicienne en France ? Parce que effectivement, au regard des scores des européennes, Europe Écologie Les Verts pourrait, devrait se retrouver au fond au cœur de la stratégie de rassemblement. Or, on voit que même si Yannick Jadot dit vouloir rassembler, il dit aussi qu'il n'est pas prêt à toutes les concessions. Il a expliqué qu'il ne ferait pas demain ce qu'il n'a pas fait pendant la campagne, à savoir se mettre autour d'une table entre anciens partis du XXe siècle pour faire des accords, des machins et des trucs. On voit bien que là, l'Europe Écologie Les Verts n'apparaît pas extrêmement disposée à construire cette unité de gauche.
Exactement, et c'est pourquoi l'union, la nouvelle union des gauches, si elle est possible, elle sera très très difficile à faire. Parce que les Verts aujourd'hui se sentent le vent en poupe, ils veulent garder leur autonomie et même leur indépendance, ils ont un programme et ne veulent pas faire de compromis. Or, toute alliance exige le compromis. Alors, comment les différentes organisations de gauche pourront-elles dépasser cet obstacle? Évidemment, elles rêvent peut-être certaines d'un nouveau Mitterrand, un grand stratège qui pourra précisément, grâce à ses vertus tactiques, rassembler une sorte de nouvelle, un nouveau congrès d'Épinay, n'est-ce pas, où là, il ne s'agirait pas de rompre avec le capitalisme, mais de concilier tous les atouts pour entrer véritablement dans cette ère nouvelle, parce qu'il s'agit bien de cela pour le XXIe siècle, c'est-à-dire dans une gauche écologique et européenne.
Vous le voyez, ce nouveau Mitterrand, non, aujourd'hui, cet homme providentiel de la gauche, vous le voyez, Michel Hunac ?
C'est le problème. Mais, vous savez, l'histoire est imprévisible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a parfois des héros qui surgissent, des leaders qui surgissent. Mais pour le moment, c'est vrai. Je pense que il y a dans toutes ces formations de gauche, il y en a une qui semble désireuse de cette union. C'est évidemment le Parti socialiste, avec la liste qui a fait malheureusement pour elle à peine 6,3%. Mais sans arrêt, Olivier Faure nous dit l'union de la gauche, il faut s'unir, et c'est du reste un des thèmes de la campagne. Jadot, au contraire, avec les Verts, dit pas d'alliance qui pourrait écorner notre programme. Nous avons un programme, nous le défendrons jusqu'au bout. Donc, pour le moment, c'est l'impasse.
Mais vous avez fait l'impasse, pardonnez-moi, Michel Vinocq, sur la France insoumise également.
Oui,
parce qu'en fond, on dit aujourd'hui, Europe et l'écologie des Verts n'est pas très enclin à effectivement participer à cette union des gauches. Mais quand la France insoumise était très en forme au lendemain de l'élection présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon n'était pas non plus extrêmement disposé à participer à cette union des gauches. On voit bien que, au fond, quel que soit le parti qui est en force dans ce paysage des gauches, eh bien, on n'envisage pas, en tout cas celui qui mène la danse au moment donné, n'envisage pas cette union.
Là encore, vous constatez une réalité qui n'est pas nouvelle. Et la gauche a une difficulté considérable à s'unir. Pourquoi ? Parce que pour schématiser, il y a toujours eu évidemment cette opposition, cette tension entre une gauche qui était révolutionnaire, qui était marxiste, qu'on pourrait dire maximaliste, et puis une gauche réformiste, favorable au gouvernement, une gauche de gouvernement. Cette tension, elle existait même quand la gauche était au pouvoir, voire le quinquennat de François Hollande. François Hollande, sa majorité, qui était divisée, n'est-ce pas, avec ses frondeurs, etc. Donc c'est une tension, je dirais, structurelle. Alors comment l'extrême-gauche, la France insoumise, pourrait dépasser justement cette position maximaliste, que j'ai appelée maximaliste, pour en arriver à concevoir une union de la gauche fondée sur un programme de gouvernement, eh bien oui, ça sera difficile.
Eh ben c'est là qu'il faut regarder l'histoire, Michel Vinocq, parce que évidemment cette gauche aujourd'hui, elle est particulièrement morcelée. D'ailleurs, on dit la gauche, on devrait dire les gauches, mais il n'en demeure pas moins que dans l'histoire du XXe siècle, il y a eu des moments d'unité de la gauche.
Ah.
La gauche, 1936 avec le Front populaire, 72 avec le programme commun, la gauche plurielle sous Lionel Jospin. Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que la gauche a pu se rassembler? Est-ce que c'est une affaire de leadership, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que c'est une affaire de contexte politique, et peut-être même hors gauche d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre cette unité de gauche?
Généralement, la gauche peut s'unir quand elle a un ennemi commun. Et vous avez cité trois moments de l'union de la gauche, je pourrais remonter un peu plus haut. Je remonterai au début de la Troisième République. À ce moment-là, le grand débat, c'est monarchie ou république. La gauche, c'est la république. Or, elle a réussi en 77, lors d'une crise qu'on appelle la crise du 16 mai, à unir toutes ses forces contre le camp monarchiste. Et grâce à des élections de 77, la république a été véritablement établie. Ensuite, vous avez 1902. En 1902, c'est le bloc des gauches qui l'emporte, qui a un adversaire qui est, je dirais, la droite monarchiste et cléricale après l'affaire Dreyfus, au lendemain de l'affaire Dreyfus. Elle réussit à s'unir et cela va aboutir à une loi très positive qui est encore la nôtre, qui est la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Et puis enfin, je reprends vos trois moments. 36, le Front populaire. Et elle l'emporte contre ce qu'elle appelle le fascisme, qui existe, mais enfin, en France, c'est surtout, bon, une extrême droite, bon, elle l'emporte, et ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce qu'il y a des contradictions internes au sein de l'union de la gauche. Ces contradictions, elles peuvent être de différentes formes. Mais en l'occurrence, en 36, il s'agit d'une opposition de classe. Car à l'intérieur même de la gauche, vous avez des intérêts de classe qui ne sont pas les mêmes. Les radicaux qui défendent, eux, la petite bourgeoisie, le travail indépendant, alors que les socialistes et les communistes défendent avant tout la classe ouvrière. Les radicaux vont accuser donc leurs partenaires plus à gauche qu'eux d'ouvriérisme et ils vont renverser Léon Blum. Bon, ensuite vous avez évidemment l'union de la gauche et vous savez que François Mitterrand, vous savez que ça va durer 5 ans. En 77, les communistes craignent d'être dépassés, ce qui va arriver.
Et le programme commun vole en éclats.
Donc mais ça ne dure pas.
On comprend parfaitement Michel Vinocq quand on regarde l'histoire. Il faut, pour que la gauche s'unisse, il faut un adversaire fort. Aujourd'hui, des adversaires à la gauche, il y en a. Il y a le Rassemblement National, il y a Emmanuel Macron aussi, d'une certaine manière, qui ne manque pas aussi d'être assez largement critiqué par cette gauche. Les adversaires de la gauche sont bel et bien là.
N'oubliez pas que Emmanuel Macron a bénéficié des électeurs de gauche, une grande partie. Aujourd'hui, enfin dimanche dernier, il a perdu environ 25% de ses électeurs de gauche, compensés par 25% d'électeurs de droite. Mais il en reste beaucoup. Pourquoi? Parce que ces électeurs qui ont voté pour la liste Macron, ils n'ont pas vu dans les organisations traditionnelles de la gauche, ils n'ont pas trouvé leur bonheur. Et que Macron leur apparaissait comme quelqu'un qui pouvait changer les choses et surtout, je crois, qui jouait la carte européenne à fond. Et il y a, ça c'est encore un objet de division des gauches, sur l'Europe, il n'y a pas d'unanimité. Mais vous avez une gauche, ou des électeurs de gauche qui sont très européens et qui ont voté pour Macron très largement sur ce thème de l'Europe et qui reste fidèle à Macron. Alors, tout cela est évidemment difficile. L'ennemi, c'est pas forcément complètement Macron, le Rassemblement National. C'est évident, c'est évident. Peut-être qu'un jour, ça sera, s'il progresse, si l'extrême droite progresse, ça sera la cible première et un facteur d'union.
Donc c'est le scénario le plus favorable à l'union de la gauche française, finalement, la montée en puissance encore de ce Rassemblement National. Non, mais si je vous décrypte, c'est ça que je comprends, Michel Villeneuve.
Effectivement, oui. Oui, mais les choses sont beaucoup plus complexes, n'est-ce pas? Je crois que l'ennemi, si vous voulez, de la gauche aujourd'hui, enfin, à mon sens, il est en lui-même, en elle-même. Il est en elle-même. C'est-à-dire essayer d'unir tous ces gens de bonne volonté, tous ces gens qui ont un certain idéal social et un idéal éthique même, sur une base commune. Or, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont travaillés, toutes ces organisations, par des rivalités personnelles, mais aussi par des héritages historiques contradictoires, par le fait que l'écologie leur pose aujourd'hui, je l'ai dit, pour commencer un vrai problème, et qu'ils n'ont pas véritablement aujourd'hui de point de fuite. J'en prends une expression de Julien Gracq que j'aime bien. Il dit en gros que une société ne peut vivre véritablement que si elle a un point de fuite. Or, la gauche aujourd'hui n'a pas véritablement de point de fuite. Et pour le trouver, enfin le seul à mon avis,
c'est l'écologie politique.
Exactement.
On y reviendra justement en deuxième partie, justement sur cette perspective et cette manière peut-être de reconstruire autour de l'écologie politique. Mais un autre fait marquant de ce scrutin de dimanche dernier, c'est le recul quand même de la gauche radicale, appelons-la comme ça, et en l'occurrence de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a fait 19,7, je crois, à la présidentielle. Là, on est à 6,3 des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous comprenez ce recul de la gauche radicale et pourquoi elle n'a pas su consolider son socle d'électeurs?
Je pense que parce que la gauche de la France insoumise n'a pas eu un programme très, très clair. Il y a, premièrement, la personnalité de Mélenchon, qui a été mise en cause à plusieurs reprises. Mais il y a surtout une incertitude entre les stratégies possibles. D'une part, on a entendu des discours favorables à l'union des gauches, et d'autre part, on a entendu des discours qu'on peut appeler populistes, populistes de gauche, si vous voulez. Un programme incertain, une visée incertaine, et un leader contesté. Pour beaucoup d'électeurs de la France insoumise, c'est une déception. Mais n'oublions pas que le vote pour Mélenchon avait été aussi un vote refuge. Après l'échec de François Hollande, un bon nombre d'électeurs traditionnellement du Parti Socialiste a voté pour Mélenchon à la présidentielle. Donc peut-être que le score décevant pour lui qu'il a obtenu avec sa liste, peut-être que c'est son niveau normal, c'est possible qu'il aura beaucoup de difficultés à remonter la pente. Mais pour le moment, je crois qu'il y a à éclaircir pour eux, pour ce groupe, il faut vraiment éclaircir leur programme, leur propre point de fuite, comme je le disais, pour que les électeurs sachent vraiment où ils veulent aller.
Eh bien, c'est justement ce qu'on va aborder en deuxième partie avec vous, Michel Vinocq. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous venez de diriger un ouvrage qui vient de paraître chez Perrin, « Les figures de proue de la gauche depuis 1789 ». Il est tout juste 8h. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
On reprend nos échanges avec Michel Vinocq, historien, qui vient de diriger cet ouvrage collectif « Les figures de proue de la gauche depuis 1789 » qui est paru chez Perrin. On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, son désir d'accélération. Il y a quand même l'une des leçons de ce scrutin des européennes du week-end dernier, c'est précisément que, alors j'entends bien, La République En Marche n'est pas arrivée en tête et c'est le Rassemblement National qui est arrivé en tête. Mais quand même, il constitue désormais une force politique centrale, centriste, forte. Vous aviez dit au lendemain de l'élection présidentielle que il y avait une forme de malédiction, en tout cas que l'histoire du centrisme, c'est celle d'un échec continuel. Voilà la formule exacte que vous avez utilisée dans l'interview de Libération. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas justement en train de rompre avec cette malédiction ?
C'est effectivement le cas, mais pour combien de temps ? Je m'explique, dans une démocratie représentative, il faut une opposition qui ait vocation à gouverner. Or, si le centre domine, que se passe-t-il ? Il n'y a pas d'alternance possible, puisque les oppositions se réfugient aux extrêmes. Et ce n'est ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche qui peut prendre le pouvoir. Donc, il me semble que nous vivons un moment, si vous voulez, un moment qui va durer peut-être un certain temps, un moment qu'on peut appeler bonapartiste, comme certains l'ont dit, ou je ne sais quoi. Mais ce moment, il ne peut pas durer, à mon sens, continuellement. Si on peut imaginer les choses, on pourrait dire que La République En Marche est peut-être vouée à devenir le grand parti de la droite, ou du centre-droit, si vous voulez.
Est-ce que c'est ce que j'allais vous dire ? Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que lorsqu'on regarde un petit peu ce qu'ont voté les électeurs, un quart des électeurs qui ont voté pour La République En Marche, là, viennent de la droite, viennent de François Fillon, viennent de Nicolas Dupont-Aignan, et donc d'une certaine manière, ce centre, ces droites et donc à laisser peut-être un espace au centre-gauche, là.
Eh bien voilà, vous avez dit ce que je voulais dire.
Pardonnez-moi.
Non, mais c'est si, mais vous savez, faire des prévisions en politique, c'est extrêmement délicat, difficile. Mais enfin, on peut penser que si ce centre se fortifie, il prendra la place d'une droite, d'un centre droit, et que par conséquent, il laissera peut-être la place à une gauche de renaître et de s'unir. Ce qu'on n'a pas dit encore à propos de l'union et de la désunion de la gauche, c'est à quel point les institutions de la Ve République ont servi la partition gauche-droite jusque en 2017. Pourquoi ? Parce que il y a cette élection présidentielle à deux tours au suffrage universel, à deux tours, qui oblige, par conséquent, le candidat de la gauche, comme celui de la droite, du reste, à faire le plein des voix de la gauche. Donc, ça, c'est un moteur d'union. Alors, on peut imaginer, tout à l'heure, on se demandait, mais comment cette gauche morcelée, divisée, pourrait renaître, etc. Mitterrand l'avait tout à fait compris. Lui qui condamnait les institutions de la Ve République, en fait, il savait très bien que c'est par l'élection présidentielle qu'il pourrait réussir à conquérir le pouvoir, ce qu'il a fait. Donc, bien sûr, il faut un Mitterrand, comme nous le disions tout à l'heure, il faut un stratège, il faut une forte personnalité. Mais rappelez-vous à quel point ces institutions, l'institution de l'élection du président au suffrage universel, a joué en faveur de l'union et de la droite et de la gauche.
Et évidemment, François Mitterrand est l'une des figures de proue qu'on retrouve dans votre livre. Justement, dans ce livre, Michel Vinocq, vous revenez sur ce clivage gauche-droite qui naît dès 1789 et qui va structurer au fond le paysage politique français jusqu'à aujourd'hui. Il y a dès le départ évidemment des divergences de part et d'autre qui vont agiter la vie politique, mais en gros ces deux camps politiques vont alterner à la tête du pays. Et aujourd'hui, il semble quand même que ce clivage ne soit peut-être plus complètement opérant. Vous disiez tout à l'heure qu'il va peut-être revenir, que c'est un moment temporaire. Je voudrais qu'on s'arrête un tout petit instant sur cette idée, parce que c'est vrai qu'on évoque beaucoup en ce moment cette idée que le clivage gauche-droite, au fond, n'est plus valable. Est-ce que c'est lié, au fond, à une forme de rejet d'une classe politique à droite et à gauche qui a été en responsabilité et qui n'a pas su répondre aux attentes ? Ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Et au fond, ce serait le signe que, en réalité, ce clivage ne correspond plus tout simplement aux fractures qui traversent notre société.
Oui, c'est fort possible. Tout d'abord, il faut bien voir que, historiquement, la gauche était porteuse de valeurs issues de la Révolution que la droite de l'époque, tout le 19e siècle, rejetait. Donc, une forte identité qui était l'héritage révolutionnaire, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, justice, laïcité. Très important, puisque la laïcité faisait la ligne de démarcation pendant très longtemps entre la gauche et la droite. Or, tout cela a été bouleversé, changé, depuis, je dirais, la Seconde Guerre mondiale. Car après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une adoption des valeurs républicaines de gauche, de l'héritage révolutionnaire, par une grande partie de la droite, celle qui avait fait la résistance, celle qui était gaulliste, par la démocratie chrétienne qui véritablement est sortie de la résistance en force. Et cette droite républicaine, qui existe encore aujourd'hui, admet parfaitement les valeurs de la gauche républicaine. Alors, quelle devient l'identité de la gauche? Cette identité, de plus en plus, elle s'est confondue avec le socialisme. C'est-à-dire que vous parlez d'égalité, la droite, vous parlez d'égalité. Ah oui, d'accord, l'égalité devant la loi, l'égalité devant la justice. Oui, mais nous, l'égalité va beaucoup plus loin, c'est l'égalité sociale. Et voilà quelle a été la ligne de démarcation entre la gauche et la droite. La justice sociale. Mais la justice sociale, c'est bien beau de l'affirmer, comment y arriver? Et alors, autre débat, si vous voulez.
Attendez, justement, pardon de vous couper, mais sur ce point-là, la lutte sociale, la question sociale, on a cette idée qu'au fond, aujourd'hui, on aura un nouveau clivage entre, d'un côté, souverainiste et mondialiste, en tout cas, partisan de la mondialisation de l'autre, et que d'une certaine manière, la question sociale aura été relayée. Mais quand on regarde bien les choses, est-ce que finalement, cette question sociale n'est pas précisément au cœur de ce clivage supposément, qui aurait supposément remplacé le clivage gauche-droite? Parce que quand on regarde tout simplement les électeurs, qui votent pour qui, on a d'un côté des jeunes ouvriers, des employés peu diplômés qui vont voter majoritairement pour le Rassemblement National, et de l'autre côté des seniors, des catégories supérieures, des zones les plus riches qui votent pour La République En Marche. Donc au fond, la question sociale, elle est au cœur de ce clivage-là.
Mais elle a toujours été au cœur de toutes les élections et de la vie politique, mais elle se métamorphose. Et vous avez raison, aujourd'hui il y a une nouvelle lutte des classes. Cette lutte des classes, elle n'est plus entre la bourgeoisie et le prolétariat. Elle est entre ceux qui sont ou qui estiment être les victimes de la mondialisation, de la nouvelle économie numérique, etc. Et puis les autres, qu'ils soient de simples employés ou des cadres supérieurs, qui s'y trouvent bien, qui trouvent leur voie. Alors, une nouvelle lutte des classes qu'a montré du reste le mouvement des Gilets jaunes, très difficile, n'est-ce pas, au départ, à analyser. Qui sont ces gens? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et on s'est aperçu qu'il y avait un fond de classe, effectivement, mais qui n'était plus l'ancien fond de classe prolétaire contre bourgeoisie, mais ça concernait avant tout les classes moyennes dites inférieures contre surtout les citadins. Alors voilà une ligne de clivage qui est apparue, qui a aussi une dimension de classe, l'opposition entre les grandes villes et puis les villages, les petits bourgs, la France périphérique, etc.
Et voilà le défi pour la gauche, précisément, savoir parler à ces classes-là. Parce que pendant très longtemps, les classes populaires, elles constituaient le socle naturel de la gauche. Et progressivement, c'est vrai qu'elles s'en sont détournées pour aller jusqu'à l'extrême droite, précisément. Lors du dernier scrutin européen, c'était très clair. Le succès des partis nationalistes populistes, et d'ailleurs, pas seulement en France, il est assez largement le fruit de ce soutien des classes populaires. D'abord, pourquoi la gauche l'a perdue? Et comment faire surtout pour la reconquérir?
Oui, c'est sûr. C'est une question difficile. Pourquoi elle l'a perdue? Il y a eu un certain nombre de facteurs. Je pense, pendant un certain temps, il y a eu le problème de la sécurité. Rappelez-vous, pendant longtemps, la gauche ou les porte-parole de la gauche ont relativisé ou nié carrément le problème de la sécurité qui était un fantasme d'extrême droite. Or, ce problème-là a touché beaucoup d'électeurs de gauche, et en particulier ces gens qui étaient affrontés dans les banlieues et ailleurs à des vrais problèmes de délinquance, etc. Il y a eu aussi une politique sociale que la gauche n'a pas véritablement mise en place. Mais c'est extrêmement difficile. Il faut bien comprendre que pour qu'il y ait une vraie redistribution des richesses, etc., encore faut-il qu'il y ait du grain à moudre, c'est-à-dire qu'il faut produire. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. La gauche a favorisé, sous le quinquennat de François Hollande, les entreprises. Or, cette mesure économique qui était salutaire peut-être, a été comprise comme un abandon des couches inférieures. Il y a eu le problème certainement de l'immigration qui a joué. Alors, l'immigration et ses fantasmes et ses mythes, on a senti la gauche...
Sachant que souvent on relie les deux d'ailleurs.
Oui, exactement. Alors, il y a eu de la part de la gauche beaucoup d'incertitudes ou de déclarations un peu légères à ce propos. Ça a été évidemment la boutique du Front National et puis du Rassemblement National, voilà. Vos mots viennent avant tout de l'immigration, de l'Europe, etc. Donc tout un langage populiste, très nettement mythologique, qui a détaché très largement les couches inférieures de la société de la gauche.
Donc il faut retrouver justement ce lien avec ces classes populaires, savoir leur parler à nouveau. Pour leur parler, il faut aussi leur proposer du progrès. La question du progrès,
oui,
elle a été durablement pour le coup.
Oui.
La caractéristique de la gauche, elle a toujours eu l'ambition d'être au fond le parti du futur, le parti du changement, avec en opposition avec le conservatisme qui lui prône plutôt le maintien d'un ordre naturel, je mets des guillemets. Mais jusqu'où est-ce que vous diriez que cette crise actuelle justement de la gauche, c'est le résultat de cette incapacité à produire de la transformation pour se projeter dans un futur meilleur? Et finalement, comment retrouver ce sens du progrès qui est le cœur de l'identité de la gauche?
Vous me posez la question à moi. Franchement, je ne suis pas un expert. Je suis historien. Je vois la transformation, l'évolution.
Et vous avez vu d'autres crises dans l'histoire précisément.
Certainement.
Et celle de la question du progrès a déjà été sur le devant de la scène.
Aujourd'hui, nous abordons un problème tout à fait nouveau. Car nous vivons une période sans précédent, je dirais, qui est un bouleversement total, d'abord avec la mondialisation et la révolution numérique. Ces deux facteurs, qui sont conjoints du reste, changent absolument tout, aussi bien le système de communication que l'économie, que la société. Et où allons-nous? Et c'est la grande question à laquelle il est difficile de répondre. Alors vous avez la version catastrophiste, nous allons à l'abîme. Là, il y a tout un courant intellectuel assez dominant du reste qui est carrément décadentiste, pessimiste à l'extrême. Et puis, on n'entend plus beaucoup les prophètes du progrès. Sauf que le mot a été repris par Emmanuel Macron et qui parle du progressisme. Mais franchement, à gauche, le progrès désormais n'est plus le grand mot d'ordre. Mais il faut s'entendre.
Ça dépend ce qu'on entend.
Exactement.
Par progrès, parce
exactement.
Que, par exemple, là précisément, du côté de l'écologie politique, on pourrait avoir un relais intéressant. Au fond, le progrès ne serait-ce pas précisément enclencher véritablement la transition écologique.
Exactement. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de révolution copernicienne. C'est que le progrès, ce n'est plus le progrès matériel, mais un progrès qualitatif. Un progrès qualitatif qui entraîne véritablement des transformations profondes, y compris dans nos modes de vie. Parce que la voiture, pour prendre cet exemple, l'automobile a régné pendant un demi-siècle, et son règne va se terminer, doit se terminer, d'une manière ou d'une autre, soit par la voiture électrique, soit autre chose. Mais il faut prendre des décisions très très vigoureuses, alors que l'écologie est encore aujourd'hui un des articles de programme, comme ça, qui est nécessairement, enfin, c'est pas central. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ça va être le thème dominant.
Pour que ce soit le thème dominant, et que, effectivement, ça permette de reconstruire cet idéal de progrès, il y a peut-être deux, trois questions à régler. Et notamment, la question du rapport au libéralisme. Dans l'écologie politique, ça n'a pas l'air tout à fait clair. Il y a une enquête récente du CEVIPOF, extrêmement intéressante, qui s'est intéressée aux électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Et qu'est-ce qu'elle montre? Alors, on essaye de comprendre le rapport au libéralisme à travers un certain nombre de questions sur l'immigration, sur la peine de mort, sur le mariage pour tous, donc des questions culturelles, sociétales, et puis aussi sur la liberté d'entreprise, sur la redistribution des richesses. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les électeurs d'Europe Écologie Les Verts sont fortement libéraux sur le plan culturel et sociétal, mais faiblement libéraux sur le plan économique. Vous me direz, c'est pas pas forcément une surprise, sauf que on voit que cette écologie politique, en tout cas ses électeurs, ont un peu de mal à savoir si au fond ils sont des libéraux ou des anti-libéraux. On a là quand même une incertitude autour du libéralisme qui pourrait poser problème dans la reconstruction de cet idéal de gauche et dans l'unité de la gauche.
Oui, je pense que le terme de libéralisme est un terme un peu fourre-tout. On confond très souvent le libéralisme économique, le libéralisme culturel, le libéralisme politique. Sur le libéralisme politique, là, il n'y a pas de problème. C'est la démocratie en gros, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, etc. Sur le libéralisme culturel, c'est à peu près la même chose. Alors, en revanche, sur le libéralisme économique, je pense qu'il y a quand même un modèle qui a été le modèle social-démocrate. À savoir, contrairement aux marxistes, les sociaux-démocrates ont dit « ne rêvons pas d'une révolution radical qui transformerait, qui ruinerait, qui abolirait le capitalisme. C'est-à-dire, parce que qu'est-ce qu'on entend par capitalisme ? N'oublions pas qu'il s'agit aussi du marché, de l'économie de marché et de la libre entreprise. La libre entreprise qui est une liberté. Et les sociaux-démocrates ont passé ce qu'on appelle un compromis, si vous voulez, avec le capitalisme, à savoir, nous restons dans l'économie de marché, nous gardons la libre entreprise, mais nous régulons le marché, nous régulons le capitalisme. Il faut un certain nombre de contraintes, de lois qui empêchent le capitalisme, je dirais, de devenir sauvage. Or, c'est bien, à mon avis, le but, ça devrait être le but d'une gauche réformiste, c'est-à-dire de contraindre, de poser des règles. Alors ces règles, à mon sens, elles ne peuvent exister qu'à une échelle importante. Et c'est pourquoi l'Europe est nécessaire. Si vous restez dans l'hexagone, si vous restez dans un pays limité à la fois par sa population et par ses frontières, vous ne pourrez pas véritablement revitaliser une gauche qui a de l'avenir.
J'entends ce que vous dites, Michel Vinocq, sur les sociaux-démocrates qui, au fond, auraient choisi leur camp d'une certaine manière et se seraient positionnés clairement vis-à-vis du libéralisme. Mais dans l'écologie politique, une fois encore, je ne sais pas si ça a été vraiment complètement fait. On trouve dans ce champ-là des partisans d'une véritable rupture avec le capitalisme, des partisans de la décroissance, mais on trouve aussi des gens qui sont prêts à faire quelques accommodements avec le capitalisme et qui considèrent que la croissance doit continuer, à condition, bien sûr, qu'elle soit une croissance verte et qu'elle profite à tous. Mais en fait, il me semble qu'il y a quand même, au fond, une détermination qui n'est pas totale dans cette écologie politique vis-à-vis du libéralisme.
Vous avez raison, c'est bien pourquoi nous retrouvons ces divisions idéologiques au sein de la gauche et au sein presque de chaque formation de la gauche. Il faut éclaircir les choses. Et donc, un programme s'impose, une unité de programme s'impose, et je crois que là, vous touchez un point extrêmement délicat qui touche à des réalités, mais aussi très largement à des mythes, à une mythologie antilibérale qui est à mon avis, dangereuse, parce que on n'arrête pas de parler à gauche ou à l'extrême gauche de rupture avec le capitalisme, mais cette rupture n'arrive jamais. On parlait jadis de révolution, la révolution on ne la faisait pas. Donc il y a un langage, un discours radical, et puis dans les faits, on continue à œuvrer comme hier. Donc je crois qu'il faut éclaircir cette idée-là, n'est-ce pas, que nous sommes dans une économie de marché. Et je crois
qu'un homme, dans quel sens
un homme l'avait fait, ouais. C'était Michel Rocard. Mmh. Il avait tenté de donner au Parti Socialiste précisément cette cohérence en disant il faut pas d'un côté parler révolution, marxisme ou je ne sais quoi, et de l'autre faire comme la droite, agir comme la droite quand on est au gouvernement. Donc il faut de la cohérence. En son temps, Édouard Bernstein disait aux sociodémocrates allemands, il faut réconcilier le discours et la pratique. En discours, ils étaient marxistes, révolutionnaires, et en pratique, eh ben, ils étaient réformistes. Donc il faut qu'il y ait une unité effectivement d'action et de programme.
Quand on regarde, Michel Vinocq, la scène nationale, on assiste, on l'a dit, à cet affaissement des deux partis de gouvernement de droite et de gauche, l'émergence de nouvelles forces. Et quand on regarde la scène européenne, c'est un peu la même chose. On a l'éclatement d'un paysage politique par lequel le bipartisme, au fond, laisse place maintenant à un paysage beaucoup plus divers, avec l'apparition d'un bloc centriste, le renforcement du groupe écologiste, le groupe aussi des souverainistes europhobes, appelons-le comme ça. Alors on peut regretter cet éclatement, mais on peut aussi s'en réjouir, Michel Vinocq. Après tout, on peut le voir comme une amélioration de la représentation des citoyens dans l'espace de débat politique. On a beaucoup parlé de crise politique. Finalement, est-ce que c'est pas aussi une bonne nouvelle de voir les citoyens mieux représentés, même si c'est évidemment au prix de difficultés, de débats, de ralentissements aussi peut-être au niveau du Parlement?
Oui, je le crois. Vous posez une question qui se pose à tous les régimes politiques, à la France en particulier, et qui tient aussi au mode de scrutin. Vous savez, le grand débat entre proportionnel et, oui, et scrutin majoritaire. L'intérêt de l'élection de dimanche est effectivement qu'il n'y a plus de majorité figée, fixée, définitive, qui forme un bloc d'airain qui décide de tout. Désormais, on va avoir affaire probablement à des majorités fluctuantes, changeantes, ce qu'on appelle des majorités d'idées, qui changent progressivement selon les grands thèmes abordés, les projets de loi abordés. Pour la démocratie, c'est un bienfait, c'est indiscutable, parce que la discussion, justement, aura lieu, et que le vote ne sera pas d'avance connu. Donc c'est sûr. Le danger moins pour l'Europe du reste que pour des pays comme la France, c'est évidemment que la proportionnelle émiette la représentation et qu'il est extrêmement difficile, alors nous parlons de l'union de la gauche, mais de trouver une majorité stable. Mais incontestablement, c'est un progrès pour la représentation des électeurs, c'est un progrès pour le débat, et ça peut avoir des conséquences extrêmement bénéfiques pour la démocratie.
Michel Vinocq, je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage collectif Les figures de proue de la gauche depuis 1789, et vous avez écrit la partie consacrée à Victor Hugo. Peut-être l'une, voire la figure tutélaire de la République française. Aujourd'hui, on n'a pas tellement de doutes sur le fait que Victor Hugo était un homme de gauche. Mais en réalité, lorsqu'on retrace sa vie, il l'a pas toujours été. Vous rappelez qu'au début de sa carrière politique, il avait défendu la Régence, dans sa jeunesse, c'était un royaliste, et puis finalement, il finira par se réclamer de la République universelle. Vous écrivez tout cela dans votre ouvrage. Comment comprendre ce positionnement originel assez conservateur? Et racontez-nous comment s'est fait cette conversion à la gauche, parce que ça peut être intéressant pour éclairer notre présent, Michel Vinocq.
C'est exact. Victor Hugo, dans son enfance, dans sa jeunesse, a été royaliste. Il a écrit des poèmes à la gloire du couronnement de Charles X, par exemple. Sous la monarchie de Juillet, c'est-à-dire sous Louis-Philippe, il est devenu véritablement un notable. Un notable, puisqu'il est entré à la Chambre des Pairs, à l'Académie française, il s'entendait à merveille avec le roi Louis-Philippe, et quand la révolution de 48 est arrivée, il n'était pas du tout républicain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quand même, chez Hugo, un certain nombre de déterminations, de sensibilité, une certaine sensibilité, je dirais humaniste, qui existait profondément, même au temps où il glorifiait la monarchie. Songeons qu'il a été un des premiers écrivains à défendre l'abolition de la peine de mort. C'était en 1929, dans un ouvrage qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné à mort ». Et à l'époque, personne ne croyait possible cette abolition. Du reste, ça a duré très longtemps. Balzac, par exemple, jugeait que, de même que bien d'autres écrivains, jugeaient que la peine de mort, c'était un cadenas de sûreté pour la société. S'il n'y avait pas cette punition suprême, eh bien, la société délinquante risquait de s'amplifier, etc. Donc, il écrit ce livre prémonitoire, et il y a donc chez lui cette première sensibilité, si vous voulez, qui s'est... Et puis ensuite, il y a le la sensibilité à la misère humaine.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que vous dites humaniste. Pourrions-nous parler d'un socialiste ? Je suis bien parfaitement conscient qu'on est en plein anachronisme, mais la question sociale, quelle importance pour lui ? Lorsqu'il arrive député en juin 48 et qu'il prononce son premier discours à la Chambre, on est quelques jours avant les émeutes ouvrières contre la fermeture des ateliers nationaux, il a précisément, il était favorable dans un premier temps à la fermeture de ces ateliers nationaux, alors que ça va avoir des conséquences sociales terribles. Alors, comment se positionne-t-il par rapport à cette question sociale ?
Rallié à la République, il devient d'abord un républicain de raison, puisqu'il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là. Mais n'oublions pas que s'il a condamné effectivement les ateliers nationaux et applaudi par conséquent à leur fermeture, qui va déclencher les terribles journées de juin 1848...
Qu'il a soutenu.
Mais il a été quand même bouleversé par ces journées de juin. Bouleversé. Et là, il y a un changement, une transformation qui se fait. N'oublions pas qu'il a commencé Les Misérables. Ça s'appelait la misère. Il l'a commencé avant la révolution de 48. Il y a déjà donc une attention à la misère populaire qui est effrayante dans l'industrie textile du Nord. Notamment, il va faire partie d'une commission à Lille où il va découvrir la condition des ouvriers textiles dans cette région de France. Il va être effrayé. Et par conséquent, il y a dans sa conversion à la République et à la gauche assurément ce facteur social que vous avez appelé avec des guillemets socialiste.
C'est bien fait, n'est-ce pas ?
Oui, de mettre des guillemets.
Je vais vous poser une question que vous allez détester, Michel Vinocq. Aujourd'hui, Victor Hugo, que dirait-il de la gauche française et où se situerait-il ?
Vous avez bien raison de me dire que je déteste cette question, parce qu'elle est un peu artificielle, vous le comprenez. Comment imaginer un Victor Hugo avec ses qualités, ses défauts, sa vie, etc. aujourd'hui, je ne sais pas. J'aurais une meilleure réponse pour Flaubert, n'est-ce pas ? Parce que
alors allons-y pour Flaubert.
Flaubert, n'est-ce pas ? Vouait un culte à Saint Polycarpe, qui était ce père de l'Église, n'est-ce pas ? Qui n'arrêtait pas de dire quelle époque. Eh bien, je crois que comme Saint Polycarpe, Flaubert dirait quelle époque et quelle gauche.
Dans votre livre, Michel Vinocq, et ce sera peut-être ma dernière question, il y a évidemment de nombreuses grandes figures de la gauche, Condorcet, Robespierre, Benjamin Constant, Victor Hugo, on en parlait, Jaurès, Clémenceau, Thorez, Camus, Mitterrand, Rocard, on en a évoqué quelques-unes ici. Qu'est-ce qui rassemble ces figures ? Outre le fait qu'elles sont de gauche, bien entendu.
Ce qui les rassemble, c'est, je pense, un système de valeurs. Qui est, je l'ai dit, issu de la Révolution française, très certainement. Ces valeurs, c'est avant tout l'attachement aux droits de l'homme, certainement. C'est les valeurs de justice, de vérité. C'est la laïcité qui a été la grande ligne de partage entre la gauche et la droite pendant très longtemps. Voilà, par conséquent, c'est, je dirais aussi que la gauche, c'est l'exemple fondamental, primordial, dans le sens chronologique du mot de Condorcet. C'est que la gauche, ou les hommes de gauche en général, regardaient l'avenir. Condorcet était même radical en disant « tout ce qui vient du passé, on n'en a pas à s'en occuper. Nous sommes là pour l'avenir ». Donc je crois que c'est ça qui les rassemble. C'est une vision ou une tentative de vision de l'avenir.
L'avenir, justement, assez peu de figures féminines, il y en a. Simone de Beauvoir, Georges Sand, Olympe de Gouges, Arlette Laguiller également. C'est ça, l'avenir de la gauche ?
Ben, l'avenir de la gauche,
c'est ce qui manque dans le livre, un peu.
C'est le rééquilibrage. Mais vous savez, c'est en 1944 seulement que les femmes ont été introduites dans la vie politique française par leur droit de vote. Vous vous rendez compte ? 1944, alors que la révolution date de 1789.
Les femmes, c'est l'avenir de la gauche ?
Comme disait le poète, la femme est l'avenir de l'homme. Oui, je crois, dans un certain sens, certainement.
Merci beaucoup Michel Vinocq. Vous restez avec nous, je rappelle pour nos auditeurs que vous venez de publier un ouvrage collectif intitulé « Les figures de proue de la gauche depuis 1789 » qui est paru chez Perrin. Vous restez avec nous, on va ouvrir notre revue des matins. Bonjour Mathilde Serrel.